sommes le 26 avril 1986 dans la centrale Lénine en Ukraine. Nous sommes près de la petite ville de Tchernobyl. Vers 1h du matin, les ingénieurs de la centrale lancent un exercice. Cet exercice vise à accroître la production d'énergie pour le peuple. Afin de pouvoir pousser la centrale sans qu'elle soit mise à l'arrêt par les sécurités mises en place, eh bien, toutes ces sécurités ont été désactivées. Le réacteur entre en sur-régime, puis en fusion, puis enfin explose. Le directeur, complètement dépassé, qui n'est pas du tout ingénieur ce directeur, eh bien, le directeur appelle simplement les pompiers de la ville la plus proche, de la ville de Prépiat. Les efforts des pompiers sont vains, car les pompiers veulent éteindre avec de l'eau une fusion nucléaire, ce qui n'est pas du tout approprié. Les pompiers seront tous gravement irradiés, puis évacués dans l'hôpital de Prépiat, et ils mourront tous dans les jours suivants. Oui, nous sommes le 23 avril 2012. Il y a donc 26 ans, presque jour pour jour, explosé le réacteur numéro 4 de la centrale Lénine en Ukraine, près de la petite ville de Tchernobyl. C'est donc une émission spéciale, une émission anniversaire de commémoration, mais de commémoration sombre, dure, rude. Je vais vous passer des extraits. Nous voulons parler un peu ici aujourd'hui à Honneur du Prolétariat, l'émission des fiertés prolétariennes, tous les lundis de 18 à 19h sur Radio Canu 102.2. Eh bien, nous voulons parler un peu des dégâts qu'occasionnent ces centrales en cas d'accident. Donc, il y a eu Fukushima il n'y a pas si longtemps. Et du coup, eh ben, on aimerait parler des témoignages des victimes irradiées, des victimes qui ont lutté aussi contre ces centrales. Eh bien, je vous propose un premier extrait audio. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, un extrait audio, tout à fait impétueux et dynamique, comme toujours à Honneur du Prolétariat, l'émission des fiertés prolétariennes. Et donc, nous nous trouvons au matin, le matin du 26 avril, un hélicoptère survole la centrale. À son bord, il y a le reporter Igor Kostin. Et il découvre pour vous en direct l'étendue des dégâts. Rassurez-vous, c'est traduit en français. Juste après, dans le même extrême, et je vous indiquerai à quel moment ce sera, le colonel Grebeniuk témoignage. Et ce colonel est le chef des premières troupes d'intervention, donc autour de Tchernobyl. Et les troupes du colonel Grebeniuk effectuent des mesures dans la ville voisine de Prépiat, dont je vous ai déjà parlé. Car oui, la ville la plus proche de Tchernobyl, c'est Prépiat. Mais je ne sais pas pourquoi on a appelé ça la catastrophe de Tchernobyl. C'est peut-être plus... Je sais pas, plus c'est plus joli comme nom, je ne sais pas. Bon, alors donc ils sont dans la ville de Prépiat et ils prennent des mesures pour savoir un peu si c'est irradié. Donc il faut savoir qu'en URSS la mesure mesurer la radioactivité c'est le rentgen et ils découvrent dans la ville 600 000 fois plus que la norme, qui est de 12 millionièmes de rentgen. Donc, ce qui donne une tolérance, faut savoir ça, hein. Après, comme ça, vous pourrez écouter de manière complètement détachée cet extrait. Donc, 2 rentgen par an, si un être humain est soumis à 2 rentgen par an, il n'a pas d'infection et voilà, c'est pas nocif pour lui. Mais, à partir de 400 rentgen, c'est mortel. Donc voilà, il y a cette fourchette-là, entre 2 et 400 rentgen, et ben voilà. Donc 400, ben, vous n'avez plus qu'à mourir, quoi. Bon, super. Alors, on va écouter l'extrait. Donc, ça commence par le reporter Igor Kostin, qui a réussi à se dégoter par un pote militaire un tour en hélicoptère au-dessus de la centrale dès le matin du 26 avril. Et nous allons écouter ce qu'il raconte. C'est un témoignage, bien sûr. Il y a une partie en direct, mais il y a une partie en témoignage aussi après. Voilà. Eh bien, je propose qu'on écoute tout simplement, eh bien, ce témoignage, cet extrait fabuleux. Mais je me trompe de... Je suis complètement ivre. Non, c'est une blague. Je suis pas ivre du tout, mais je me suis trompé de bouton. Voilà. Un peu comme d'habitude, pour les habitués, c'est pas très grave. Du coup, eh ben on va écouter l'extrait. À toi, Igor Kostin.
Lorsqu'on s'est approché du quatrième bloc et qu'on en a fait le tour... Je ne me rendais pas du tout compte du danger. J'ai ouvert le hublot de l'hélicoptère. Je ne savais pas à ce moment-là que je commettais une énorme erreur. Quand j'ai ouvert le hublot, je n'entendais plus rien. Sous moi, le réacteur détruit. J'avais l'impression de me retrouver en apesanteur dans l'espace, comme dans une tombe, un vrai silence de mort. Je n'entendais même plus le bruit de l'hélicoptère, rien. Un trou noir, une tombe et le silence de la mort. Après une minute, tous mes appareils se sont bloqués. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pensais que mes batteries étaient déchargées. Je n'ai pu faire qu'une dizaine de clichés. De retour à Kiev, j'ai développé mes pellicules et j'ai vu que mes négatifs étaient noirs et les couleurs de très mauvaise qualité. Je ne le savais encore pas, mais c'est la radioactivité qui les avait exposés.
Maintenant, le témoignage du colonel Grebeniuk, chef des premières troupes d'intervention autour de Tchernobyl.
On avait un goût métallique sur la langue, une certaine acidité. On disait pourtant que la radiation n'a pas de goût. Ce n'est que plus tard que nous avons compris que c'était le goût de l'iode radioactif. Boulevard Lénine, 200. Boulevard Ukraina, 250 millirentgen. Et le soir, 7 rentgen. Mes subalternes ont commencé à avoir des doutes. Les appareils étaient-ils défectueux? Où nous avait-on menti? Nous ne savions pas encore que le réacteur brûlait toujours et que la radiation continuait à se répandre. Cette carte est sous plastique parce qu'elle est toujours radioactive. Sur cette carte, ils avaient noté leurs premières mesures. 2080 rentgen. J'ai eu peur pour mes hommes. Comment avais-je pu les envoyer là-bas?
Bonheur du prolétariat, émission spéciale aujourd'hui. Eh bien, pour les 26 ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, eh bien, on fait un petit remember. Je donne aujourd'hui la parole, par témoignage évidemment, je n'ai pas de témoin direct. Hein, bon. Eh bien, je donne la parole à toutes les victimes, à toutes les personnes qui ont lutté contre la catastrophe de Tchernobyl, le front de Tchernobyl, la bataille de Tchernobyl. Et du coup, ben là, on vient d'écouter déjà un super extrait, et aussi en musique, car la musique nous rappelle aussi le nucléaire, et nous avons choisi aujourd'hui le groupe Death by Kite, qui chante à tue-tête Hiroshima. Alors, donc, nous sommes dans les premiers jours de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Il faut savoir que Gorbatchev a mis 48 heures à être informé de la gravité de la situation. Donc là, ce qui se passe, c'est que la centrale a explosé, il y a un énorme cratère en fusion à l'air libre. Du coup, il faut colmater déjà dans un premier temps ce cratère parce qu'il y a 10 000 tonnes de radiation qui s'en échappe. Donc, le but, c'est de colmater ce cratère avant d'essayer éventuellement de le faire refroidir, ce qui sera toute une autre paire de manches, puis après nettoyer le site et faire un sarcophage. Bon, là, on en est à colmater le cratère. Donc, pour cela, intervention des hélicoptères. Le but, c'est jeter des sacs de sable et des barres de plomb dessus. Donc, une flotte de 80 hélicoptères est déployée. Certains sont transférés d'urgence du front d'Afghanistan, car je vous rappelle qu'à la même époque, l'Union soviétique est en intervention de basse intensité en Afghanistan. Donc ça, c'est la version officielle. Donc voilà, ça c'est nanana. Et par ailleurs, certains pilotes, donc sur le cratère, font 33 vols en une journée. Les pilotes sont sans aucune protection. 600 pilotes d'hélicoptères mourront des suites de ces opérations de colmatage du cratère. Un témoignage tout de suite, nous avons un superbe témoignage, le témoignage du général Antopchkin, donc qui est le chef des liquidateurs, comme on les appelle. Donc il faut savoir que les liquidateurs, c'est comme ça qu'on appelle toutes les troupes qui ont été mobilisées en vue de colmater et de gagner la bataille de Tchernobyl, comme ils disent, en Union soviétique. Donc les liquidateurs, beaucoup sont très malades. Bon, on en parlera tout à l'heure, ça, je m'égare un petit peu. Donc tout de suite, écoutons le général Antopchkin, qui est le chef des opérations autour de Tchernobyl.
À cause du feu, la température à cette hauteur était de 120 à 180 degrés. Le graphite continuait de brûler. Notre dosimètre était limité à 500 rentgen. L'aiguille devenait folle. L'appareil saturait. Je pense qu'il y avait au moins 1000 rentgen à 200 mètres de hauteur. Il fallait agir aussi rapidement que possible, éteindre et sceller le réacteur pour pouvoir ensuite s'approcher et mener d'autres travaux. Il fallait aussi tout fermer afin d'arrêter la propagation de la poussée radioactive. Le vent l'emportait. Il fallait vraiment faire vite. Lors de chaque passage, il recevait de 5 à 6 rentgen. S'il s'attardait, ce chiffre augmentait. Après avoir lancé 6, 7, 8 sacs, ils étaient trempés de transpiration à cause de la température. Après quelques missions, mes soldats allaient se laver, manger. Puis au bout d'un moment, ils vomissaient.
Yeah.
Honneur du prolétariat, l'émission des fiertés prolétariennes, tous les lundis de 18 à 19h sur Radio Canus en 2.2, et nous sommes le lundi 23 avril 2012, et nous fêtons, si je puis m'exprimer ainsi, nous fêtons les 26 ans, quasiment jour pour jour, de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Et du coup, on écoute des témoignages, tout ça, puis on se rend compte que c'est vraiment terrifiant, terrifiant, une catastrophe nucléaire. Donc il serait temps qu'on s'en sorte un petit peu. Là, tout de suite, c'était Kraftwerk avec le hit, mais vraiment le hit, it's big hit, Radio Activity. Et du coup, voilà, je crois que je vous dis un peu ce que je voulais vous dire. Ben là, du coup, on a vu un témoignage des premières interventions des liquidateurs, donc ceux qui se battaient au risque de leur vie, terrifiant, terrifiant, qui se battaient contre la radioactivité à Tchernobyl. Et du coup, on va s'intéresser maintenant un peu au témoignage ces liquidateurs, une fois contaminés, ils sont envoyés à l'hôpital 6, qui est spécialisé en radiation, c'est-à-dire c'était en fait plutôt dans un cas de guerre thermonucléaire qu'il a été conçu, cet hôpital 6, mais bon, voilà, du coup, il va servir aussi pour ça. Donc, c'est une infirmière qui va livrer son témoignage de ce qui se passait à l'époque, de comment ils ont reçu les liquidateurs, les premiers liquidateurs contaminés.
Lorsqu'ils sont arrivés à la clinique, c'était psychologiquement très difficile. Ils arrivaient de l'aéroport. Presque tous étaient des hommes jeunes. Ils sont arrivés pendant la période de latence. Ils se sentaient bien. Ils plaisantaient. Ils étaient tous habillés de la même façon, dans les mêmes pyjamas. Mais nous savions déjà que beaucoup d'entre eux allaient mourir.
Вот. Ну и вы об этом знаете. 27 человек.
27 d'entre eux sont décédés dès les premiers temps.
В острый период это те, у кого были несоразмеримые жизни.
Tous avaient reçu des doses énormes de radiation et souffraient de brûlures totalement incompatibles avec la vie.
Несовместимую жизнь ожоги радиационные.
Honneur du prolétariat, l'émission des fiertés prolétariennes. Nous venons d'écouter des Fans, The Faint, Enola Gay, car nous sommes dans une thématique complètement nucléaire. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale qui commémore les 26 ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, quasiment jour pour jour. Et du coup, ben voilà, on parle un peu de cette catastrophe, surtout du côté humain, c'est-à-dire ben le témoignage d'un peu toutes les personnes qui sont intervenues autour de cette catastrophe, notamment les liquidateurs et tout ça. Et il y a aussi des mineurs qui ont creusé un tunnel sous la centrale pour essayer de restabiliser le réacteur afin qu'il ne traverse pas la croûte terrestre, oui, car il allait s'enfoncer dans le sol tellement il était en fusion. Et du coup, ben voilà, on parle de tout ça. Et puis, je pense qu'il est temps, là maintenant, d'avoir une minute, enfin non, comment dire, eh bien de un chant spécial, un chant qui fête un peu les travailleurs qui ont travaillé, qui se sont battus autour de la centrale, et nous allons évidemment, pour les habitués de l'émission, écouter le cœur des travailleurs de l'Union soviétique. Ça ne dure qu'une minute, hein, c'est un mauvais moment à passer peut-être si pour les plus les malhonnêtes d'entre vous, hein, évidemment, nous allons nous recueillir pour les liquidateurs, les mineurs et autres travailleurs qui se sont battus contre l'atome en Union soviétique en 1986 pour qu'on s'en sorte un jour de cette saloperie d'énergie nucléaire.
Блеснули клинки и мы грянули,
ура!
И бросив в окопы бежали он я.
Honneur du prolétariat, l'émission des fiertés prolétariennes. Nous venons d'écouter le chant des héros du travail de l'Union soviétique. Et bien sûr, c'était un hommage aux liquidateurs, car vous tombez de plein pied dans une émission spéciale d'hommage à la catastrophe de Tchernobyl qui a eu lieu là, quasiment jour pour jour, il y a 26 ans. Nous avons écouté un peu les liquidateurs et puis autres témoignages. Là, nous allons monter plus haut dans la nomenclatura. Nous allons écouter Gorbatchev et son intervention officielle à la télé 18 jours après la catastrophe. 18 jours, 18 jours, plus de 2 semaines après la catastrophe, il s'exprime. Et ce qui fera dire que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl sera un révélateur, notamment pour Gorbatchev, de toutes les lenteurs du système soviétique, de toute la bureaucratie, de lui faire lui dire « mais il faut faire quelque chose ». Et la gestion de la catastrophe, après cela, se constitue la première mise en œuvre de la politique de la glasnost transparence. Et c'est vrai qu'il faut avouer que dans les diverses conférences internationales qu'il y eut par la suite, notamment à Vienne, eh bien, les soviétiques ont échangé et communiqué toutes les informations qu'ils avaient. Et ce sont les Européens qui ont freiné des cas de fer pour que les informations soient filtrées. Et notamment la France, car en France, comme vous savez, le nuage s'est arrêté à la frontière. Hein. Et ce qui se passe, c'est que, par exemple, le 30 avril 1986, la présentatrice de la météo Brigitte Simonetta annonce dans un bulletin à Antenne 2 que la France est protégée du nuage radioactif par l'anticyclone des Açores. Plus tard, la journaliste Michèle Rivasi dira, je cite, « Par la suite, nous avons su qu'il s'agissait d'un ordre qui avait été donné à la météo d'agir ainsi. » Voilà. Vive la France. Donc voilà, on va écouter Gorbatchev, tout simplement, le secrétaire général du Parti communiste du RSS.
Добрый вечер, товарищи. Постигла беда.
авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Вся работа, по сути, ведется круглосуточно. Задействованы научные, технические, экономические возможности всей страны.
À cette époque, le rouble valait 1 dollar.
18 milliards.
C'est colossal.
18 milliards. C'était colossal.
Если учесть, что вслед за этим еще последовало.
Et si l'on considère que peu après les prix du pétrole se sont effondrés, vous imaginez les difficultés dans lesquelles s'est retrouvé notre pays. Et le projet de perestroïka.
Ситуация оказались наши планы, наш проект перестройки.
Du prolétariat, émission spéciale pour les 26 ans de Tchernobyl, quasiment jour pour jour. Nous venons d'écouter Élie et Jacquenot, L'âge atomique, suite et fin. Oui, émission spéciale, même les chansons sont atomiques et nucléaires. Donc, cette émission donne la parole aux témoignages des personnes qui se sont battues contre la radiation à Tchernobyl et qui l'ont payé de leur vie, de leur santé et autre chose pour montrer que l'atome et le nucléaire, c'est l'horreur totale. Eh bien, nous allons continuer. Nous sommes sur les toits et aux alentours immédiats de la centrale. Des débris radioactifs doivent être impérativement déblayés avant de commencer les travaux de sarcophage. Des robots sont déployés, mais rapidement les circuits électroniques tombent en panne à cause de la radiation. C'est alors que les réservistes sont chargés de collecter les débris. On les appelle les biorobots, les robots humains. Ils seront 3500 à se relayer ainsi sur le toit de la centrale. À l'issue de cette expérience, ils recevront un diplôme de héros de l'URSS en tant que liquidateur et une prime de 100 roubles, soit environ 100 euros. Eh bien, le prochain extrait sonore est une suite de témoignages de ces héros de l'Union soviétique, ces biorobots. Donc, je vous rappelle aussi que le mot robot, ça veut dire travailleur à la base. On a fait une émission spéciale il y a quelques semaines de cela, où robot est un mot d'origine slave, qui veut dire travailleur ou esclave. Donc, les biorobots se retrouvent esclaves humains de la centrale nucléaire. Eh bien, nous allons les écouter là, maintenant. Des témoignages poignants.
Devant, derrière, dans les bottes, ils étaient recouverts de plomb. Un casque, un masque de protection contre les rayons bêta et un tablier spécial. Une protection sur les mains, une double protection en plomb aussi. L'ensemble de l'uniforme faisait de 26 à 30 kilos. Deux semaines et demie d'enfer. Mais l'enfer ne durait que 2 à 3 minutes pour chaque soldat, voire 40 secondes, quand le niveau était trop élevé. Nous avons bien calculé les temps afin d'épargner le plus de vie possible.
Évidemment, certains n'avaient pas envie d'y aller. Mais en tant que réserviste, on était obligé d'y aller. Pour moi, il n'y avait pas d'hésitation. Je devais y aller pour accomplir mon devoir. Qui serait allé à ma place? Qui aurait liquidé cette catastrophe pour que la radioactivité ne se répande pas partout dans le monde? Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Nous étions comme des fourmis. Les uns terminaient leur tâche, les autres prenaient immédiatement la relève. Chacun devait réaliser sa part aussi modeste soit-elle. Et c'est tous ensemble que nous avons combattu la radioactivité. On prenait des morceaux de 1500 rentgen dans les mains. Après une journée de travail, on avait mal aux mains. On ne pouvait plus serrer les poings.
Quand je me suis retrouvé sur le toit pour la première fois, j'ai été frappé par la mystique qu'on pouvait y ressentir. C'était comme sur une autre planète. Tout était recouvert de carburant radioactif. J'avais les mains qui tremblaient. Je ne savais plus dans quel monde je me trouvais. Et j'ai commencé à photographier.
On a mal aux yeux et on a un goût de métal dans la bouche. Voilà les deux choses que l'on sent. Et quand on sent cela, on sait qu'on a dépassé la dose.
Là-bas, on ne sentait pas ses dents. On avait en bouche que le goût du plomb. Tu faisais ce geste, mais tu n'entendais rien.
Le plomb recouvrait tout.
Aujourd'hui encore, 20 ans plus tard, j'ai encore ce goût de plomb dans la bouche.
Quand on revenait du toit, on avait l'impression que des vampires nous avaient sucé tout notre sang. On n'avait plus de force, on ne pouvait plus bouger. Il y avait des gens qui saignaient du nez. Les pompiers restaient toujours à côté. Si quelqu'un commençait à saigner du nez, il fallait l'envoyer à l'hôpital. Si on tombait, on nous renvoyait. Mais nous, on voulait tenir le coup. Mais à l'époque, on était jeunes, on était forts. Depuis, aïe aïe, on n'a plus de santé, plus rien. Dans mon livret, ils ont inscrit que j'avais reçu 20,5 röntgen. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce chiffre était de plusieurs fois inférieur à la dose réelle. Je l'ai vu de mes yeux.
Personne ne savait exactement le niveau réel de radiation. On sait maintenant que les radiations étaient de 10 à 12 000 röntgen par heure. À un tel niveau de radioactivité, il ne fallait pas envoyer des gens.
l'heure du prolétariat, l'émission des fiertés prolétariennes. Et oui, il est 7h10 à mon horloge. Et voilà, cette émission spéciale touche quasiment à sa fin. Émission spéciale 26 ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Alors bon, j'allais dire c'est amusant. Bon, c'est bizarre quand même. L'année dernière, j'avais fait une émission spéciale catastrophe nucléaire. Et 6 mois après, il y a eu Fukushima. Donc là, croisons les doigts, touchons du bois. Espérons que dans six mois, il n'y ait pas une nouvelle catastrophe, car quand même, je crois que j'arrêterai alors de dénoncer ces centrales nucléaires, ces catastrophes nucléaires et tout ça, machin, parce que finalement, c'est peut-être un peu contre-productif. Donc, on va voir, regardez dans 6 mois ce qu'il va se passer. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Bon, ouais, quand même, je vais commencer à m'inquiéter un peu. Alors, nous pouvons faire un petit bilan quand même assez rapide de la catastrophe de Tchernobyl. Donc, cette émission était axée vraiment sur ceux qui se sont battus contre la catastrophe, c'est-à-dire les liquidateurs essentiellement. Voilà. Donc il y a environ 500 000 liquidateurs qui se sont relayés autour de la centrale en tout et pour tout, pour se battre contre l'atome, comme ils disaient. 35 000 seraient morts actuellement, et 100 000 seraient malades actuellement. Finalement, je me dis, il n'y en a pas tant que ça qui sont malades, hein. Je pensais que ça serait presque plus. Voilà, super drôle. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que 8 millions de personnes vivent actuellement sur des terres encore irradiées en Ukraine, Biélorussie et Russie. C'est-à-dire que, même sans être directement irradiés lors de la catastrophe, ils consomment des aliments, etc., etc. Ils touchent des choses qui sont irradiées, donc ils irradient eux-mêmes. Il y a énormément de malformations à la naissance, de cancers de la thyroïde, etc., etc. Donc voilà ce que je pouvais à peu près dire sur la catastrophe. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est aller voir sur internet, il est en libre vision, le documentaire La bataille de Tchernobyl, de laquelle j'ai pris certains des témoignages que j'ai montés, tout ça, très sérieux. Je peux vous inviter aussi à aller sur le blog d'honneur du prolétariat. Eh bien, ce blog est vraiment fantastique, hein. Vous pouvez y aller assez simplement. Vous prenez votre moteur de recherche favori. Donc, normalement, c'est mieux Google, quoi. Bon. Et vous allez dessus, vous tapez Honneur du Prolétariat et vous arrivez sur le fabuleux blog Honneur du Prolétariat. Et là, c'est merveilleux, hein. Ah oui, vraiment, c'est merveilleux. Donc, il y a la page des podcasts, hein, vraiment fantastique. Et là, vous pouvez écouter les meilleures émissions qui se sont passées, donc pas toutes les émissions évidemment, c'est une sélection vraiment très très rigoureuse, et notamment vous pouvez réécouter l'émission spéciale Catastrophe Nucléaire qui doit dater, quand est-ce que j'avais fait ça moi? Eh bien je crois que c'était en septembre 2010, ah ouais ça fait une paye quoi, ah bah oui c'était 6 mois avant Fukushima, voilà, facile. Voilà, je pense que j'ai un petit instant, on va pouvoir réécouter, ouais, trop ouais, on va pouvoir réécouter, eh bien, le cœur des héros du travail de l'Union soviétique, en hommage évidemment là maintenant au liquidateur. C'est très bref, c'est 1 minute, je vous demande de vous recueillir, de vous lever. Bon, si vous êtes encore en voiture, vous avez une dérogation pour rester assis, mais c'est un peu limite. Donc pour vous lever et vous recueillir et penser aux liquidateurs qui sont morts pour nous, pour notre sécurité et notre santé. Au liquidateur.
Блеснули клинки, и мы грянули!
Ура!
И бросив в окопы, бежали он я! Oh,
Honneur du prolétariat, l'émission des fiertés prolétariennes, tous les lundis de 18 à 19h sur Radio Canu, rigoureusement en direct, je vous le prouve, il est 19h moins 4 à mon horloge. Ça se trouve, vous avez moins 3 ou moins 5, mais ça, j'y peux rien, quoi. Bon, c'était une émission spéciale en hommage au liquidateur pour nous rappeler qu'il y a 26 ans, quasiment jour pour jour, il y avait la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Se rappeler que les centrales nucléaires, c'est de la merde, quoi. Ça va trop nous tuer petit à petit, à petit feu, nous. Braves humains, finalement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire autre chose, je viens d'oublier. Ah oui, c'est ça. Bon, la semaine prochaine, le 30 avril, il n'y aura pas d'émission car je fais le pont. Oui, oui, c'est très prolétarien de faire le pont. Et le 6 mai, non, ça fera combien? Le 7 mai, il n'y aura pas d'émission non plus car je refais le pont. Ouais. Donc, on se dit au 14 mai, quoi. Ouf, c'est dans trop, trop longtemps, quoi. Mais il y aura sans doute une super émission car j'aurai grave, vegras, le temps de vous la préparer avec des petits oignons et un peu de brocoli aussi, c'est pas plus mal. Et là, on se dit au revoir avec le hit Carbone de BNV Nation.